LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Pourquoi c'est important pour moi de témoigner de mon histoire ? C'est parce que ce qu'on a fait est totalement illégal. Mais on y est arrivé en se mettant dans la clandestinité totale. Donc on a pris beaucoup de risques. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, il faut qu'on puisse avoir cette ultime liberté de décider de partir parce qu'on n'est plus dans le contrôle de sa propre vie. Mais que ce qui serait formidable, c'est qu'on puisse le faire sans prendre autant de risques.
Des vivants jusqu'à la mort. Une série documentaire d'Émilie Chaudet, réalisée par Cécile Lafont. Troisième épisode, une loi pour mourir.
Notre père, il avait 84 ans. Je pense que ce qu'il a vraiment décidé, c'est quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus un jour, finalement, où il n'avait pas un problème de santé, de respiration, d'équilibre. Il a fait des malaises chez lui. Et donc, il appelait à chaque fois les pompiers, le SAMU ou je sais pas quoi, qui venaient le chercher, qui l'emmenaient à l'hôpital. Et là, il s'est dit, là, ça commence à être sérieux. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on m'emmène, peut-être je ne vais pas rentrer. Peut-être on ne va pas me ramener chez moi, mais on va, sans me demander mon avis, me mettre dans un endroit d'où je ne pourrais plus sortir, en fait. Je pense que c'est ça qui lui a dit, enfin, qui lui a fait dire que le moment venait assez vite. Et donc, on a commencé à en parler. Et on a mis en place tout ce qu'il faut pour que ce suicide assisté puisse se faire. On a eu connaissance d'une association, il y en a 3 ou 4 en France, qui militait pour le droit de mettre fin à ses jours en fin de vie. Et on les a contactés. Et nous avons été visités chez mon père par 2 personnes de cette association, qui nous ont beaucoup questionnés. Ils ont d'abord surtout parlé à mon père, quel était son projet, pourquoi est-ce qu'il envisageait ça, est-ce qu'il était malade, est-ce qu'il traversait une phase peut-être de dépression en ce moment. J'ai trouvé que leur approche était assez éthique, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là juste pour fournir une solution létale, mais déjà dans un premier temps de valider que la personne avait une vraie demande. Ils nous ont expliqué toutes les démarches qu'il fallait faire pour que ce projet puisse être mis en œuvre. Et effectivement, il a choisi donc de mettre fin à ses jours avec une solution qui est du pentobarbital. L'étape d'après a été quand même de s'approvisionner de ce produit. C'est arrivé chez mon père, un petit paquet marqué « organique cosmétique ». Et à partir de ce moment-là, il a été beaucoup plus serein, en fait. Après, il y a eu des préparations au niveau juridique. On est allé voir son avocat. L'avocat nous a recommandé plusieurs choses. D'abord, qu'il écrive de sa main une lettre dans laquelle il certifie qu'il a toute sa tête et qu'il décide de mettre fin à ses jours pour dédouaner donc ses enfants de cette responsabilité. Puis au mois de juillet, j'étais en vacances et il m'a appelé en me disant « je voulais te dire quelque chose, je sais que tu viens dans une semaine, j'ai décidé, si c'est bon pour toi, que ce soit le jour où je le ferai. » Voilà. Donc le 10 tu arrives et le 10 au soir on le fait. Et là c'est vrai que du coup j'ai été un peu secouée. Et donc, il m'a dit, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est toujours bon? Et là, je lui ai redit que, oui, comme je lui avais promis, je serai là. Donc, il a appelé mon frère pour le mettre au courant. Et il m'a rappelé après en me disant, écoute, ton frère est d'accord, donc on n'a qu'à dire ça. Et du coup, ce soir-là, donc, on est arrivé. Notre père nous avait préparé un bon petit dîner parce qu'il aimait bien manger. Il a fait des blagues, parce que de toute façon, mon père avait beaucoup d'humour et jusqu'au bout, il leur a fait des blagues. Il nous avait offert une bonne bouteille. Il n'avait pas beaucoup bu, parce qu'il est écrit qu'il ne faut pas trop boire avant de prendre le produit. Et puis, à un moment donné, il a dit, je crois que ce soir, on ne va pas regarder un film, on va y aller. Donc, si vous êtes d'accord, je vais me coucher. On lui a apporté l'équivalent d'un gros, gros verre, comme ça. On lui a apporté aussi une bouteille de jeune épi, parce qu'il recommande également de boire un petit peu d'alcool à la fin pour aider la diffusion du produit, et puis pour faire passer le goût qui est assez amer. Et puis, on lui a dit... Voilà, si tu veux le faire, tu le fais, on est là. Et si tu changes d'avis, il n'y a pas de problème, tu le fais pour toi. Voilà, tu as toute liberté de continuer ou pas. Et il a pris le verre et il a bu d'un trait. Et là, il a pris la bouteille de jeune épi, a pris une petite gorgée de jeune épi. Et il a reposé le verre et la bouteille et il s'est allongé. Et là, on s'est allongé chacun de son côté. Et effectivement, très vite, après qu'on ait dit au revoir à papa, qu'on lui ait fait des bisous, qu'on l'ait caressé, il s'est mis à bâiller. Mais alors à bâiller, je bâille. Et puis tout d'un coup, à fermer la bouche, fermer les yeux et à s'endormir très, très vite. Après, sur la respiration, qui était l'étape suivante, moi, j'ai trouvé que c'était horriblement long. Et donc, moi, je mettais mon oreille vers sa bouche, son nez, j'entendais encore un petit souffle, je demandais à mon frère, est-ce que tu l'entends ? Enfin, c'est des moments assez lunaires, où on est entre la vie et la mort. Donc, on a attendu beaucoup de temps. Et franchement, c'était très, très long. Et à un moment donné, moi, j'ai dit à mon frère, écoute, il faut que je bouge. Donc, ben, on a regardé des livres, on s'est baladé dans son appartement, on a regardé tous les objets qu'il avait accumulés, les photos qu'il avait de nous, des petits-enfants. Enfin, on s'est baladé dans sa vie. Et donc, il devait être 23h30, je suis retournée le voir. On y allait régulièrement et là, j'ai vu qu'il était mort, vraiment. Et j'ai été, c'est très étonnant, mais rassurée, en fait, parce que... Il était bien mort, ce qui est horrible de dire ça, mais surtout que ça avait fonctionné et que ça avait été un très beau moment. En tout cas, ce qui est le plus beau, c'est qu'on a pu être là comme il le souhaitait et qu'il n'y a eu aucune souffrance, aucune douleur, aucune... C'était une mort apaisée, en fait. Et moi, je milite pour la mort apaisée, c'est tout. Je trouve que mourir dans la souffrance, je vois pas trop l'intérêt. C'est pour ça qu'on était à l'Assemblée nationale hier, pour dire que nous, on veut pas ça. On était une petite centaine, et les gens étaient là pour exprimer leur désaccord avec la loi actuelle. Parce qu'en fait, la loi actuelle, c'est pas que c'est pas une bonne loi, c'est qu'elle n'a jamais été appliquée. Personne n'a été formé sur cette loi. Donc les médecins, les personnels soignants ne sont pas au courant. Très souvent, ils outrepassent en fait ce que les personnes en fin de vie ont décidé pour eux-mêmes. Et donc, on réclame une nouvelle loi qui était censée arriver déjà depuis presque un an, hein, puisque la Convention citoyenne a travaillé pendant 3 mois très dur à expliquer que 80% des Français étaient pour une nouvelle loi. Et puis, voilà, on en est toujours là, on patine en fait. Donc voilà, on était à l'Assemblée nationale hier.
Cela fait un an maintenant que 185 personnes se sont réunies dans le cadre de la Convention citoyenne sur la fin de vie et se sont prononcées à 75,6% en faveur d'une aide active à mourir, conjuguant l'euthanasie, injection létale effectuée dans un cadre médical, et le suicide assisté, c'est-à-dire l'absorption seule ou à l'aide d'un proche, d'une substance létale, le pentobarbital, obtenue sur prescription médicale. Suite à cela, l'annonce d'un projet de loi était attendue à la fin de l'été dernier et n'a cessé depuis d'être reportée. Jusqu'à ce que le président de la République, Emmanuel Macron, donne un entretien à la presse, en mars 2024, pour préciser les contours de cette future loi. Outre un plan de développement des soins palliatifs, ce modèle français tel que le gouvernement le présente, se concrétisera donc manifestement sous la forme d'un suicide assisté dans un cadre strictement délimité. Les personnes demandeuses devront être majeures, capables d'un discernement plein et entier au moment de la demande, atteintes d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et éprouvant des souffrances qu'aucun traitement ne peut soulager. Cette aide à mourir serait, selon l'annonce présidentielle, prise en charge par l'assurance maladie. Et si la personne malade n'est pas en mesure d'absorber elle-même la substance létale, elle pourrait demander l'aide d'un proche, du médecin ou de l'infirmier qui l'accompagne. Entre cette possible présence du médecin, la notion de pronostic vital impossible à déterminer dans bien des cas et un calendrier législatif qui ne fait que commencer malgré cette longue attente déjà, des impatiences et des craintes se font sentir, aussi bien du côté des partisans d'une évolution de la loi que de ses opposants. D'autant plus que ce long chemin a commencé en 2017 avec la proposition de loi du député MoDem, Olivier Falorni.
J'ai réussi à obtenir que cette proposition de loi soit inscrite en 2021 dans le cadre de ce qu'on appelle une niche parlementaire qui permet à un groupe parlementaire de disposer d'une journée, puisqu'une niche parlementaire commence le jeudi à 9h et elle s'achève le jeudi à minuit. Et donc, si on n'arrive pas au bout du texte, eh bien malheureusement, il n'est pas évidemment adopté et le débat ne peut pas être prolongé les jours suivants. Et donc, ce texte a été très largement adopté en commission des affaires sociales à une très large majorité. Et donc, nous sommes arrivés dans l'hémicycle une semaine après, le 8 avril 2021. Et donc, nous avons eu, un tout autre débat, c'est-à-dire avec la volonté d'un carteron de député LR qui avait décidé de faire ce qu'on appelle une obstruction parlementaire, puisqu'il savait qu'à minuit, tout s'arrêtait. Et donc, ils ont déposé dans un premier temps à 5, 2500 amendements, plus ensuite, parce qu'au cours de la séance, on peut déposer des sous-amendements aux amendements, et on est arrivé à peu près à 4000. Évidemment, quand vous déposez autant d'amendements, finalement, après, vous n'êtes plus trop sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire, ils avaient remplacé un mot par un autre, ils avaient remplacé homme et femme par personne de sexe féminin, de sexe masculin. Voilà, donc nous savions dès le départ que nous ne pourrions pas aller jusqu'au bout de ce débat. En revanche, je m'étais fixé dans mon fort intérieur l'objectif que l'on puisse voter l'article 1. Parce que l'article 1 était l'article qui fondait le droit à une aide active à mourir. Et donc, il était écrit que toute personne capable, majeure, en phase avancée ou terminale, d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, peut demander à disposer, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée permettant, par une aide active, une mort rapide et sans douleur. Voilà, donc 83% des députés ont voté en faveur de cet article 1. Voter l'article 1, c'est voter le droit à une aide active à mourir. Plus de 300 députés, dans la foulée, ont écrit à Jean Castex, le Premier ministre de l'époque, pour demander à ce que ce texte soit à nouveau inscrit à l'ordre du jour par le gouvernement. Nous n'avons pas eu le moindre accusé de réception. Voilà. Donc, le gouvernement ne souhaitant pas reprendre ce texte, est arrivée la campagne présidentielle et l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été interpellé à plusieurs reprises sur le sujet durant sa campagne. Et c'est à cette occasion que, pour y répondre, il a proposé qu'une convention citoyenne sur la fin de vie ait lieu au début de son second mandat. Et je pense que c'est en grande partie dû à ce vote à l'Assemblée nationale en 2021, que ce processus a été véritablement engagé et que nous en sommes aujourd'hui arrivés à une période où normalement nous devrions pouvoir débattre d'une loi sur la fin de vie en 2024.
Je m'appelle Anne Baer. J'ai 59 ans et suis atteinte depuis 2 ans de la sclérose latérale amyotrophique, dite aussi maladie de Charcot ou SLA. Maladie neurodégénérative, incurable et mortelle à très brève échéance. qui emmure dans son corps et paralyse progressivement tous les muscles jusqu'à l'asphyxie et la mort. La France nous interdit, en phase terminale ou face à l'inguérissable et aux souffrances insupportables, de bénéficier du droit à choisir l'euthanasie ou le suicide assisté. Elle a préféré l'hypocrisie de la loi Leonetti, qui ne garantit même pas le respect de nos directives. Pour ma part, j'ai biaisé la violence de l'injonction de souffrir que l'on m'impose dans notre pays. C'est hors frontières et en femme libre jusqu'au geste létal et légal qu'il sera mis un terme à l'horreur et aux tortures physiques et morales de mon emprisonnement, avec l'aide de médecins volontaires et humanistes. Ce choix si difficile rendu possible apaise mes derniers mois à vivre, durant lesquels je n'ai cessé d'interpeller le gouvernement et les responsables politiques. Non, la loi française n'assure pas aux malades son autodétermination et elle n'est pas garante d'équité. Chaque équipe médicale agit in fine selon ses propres convictions et non selon les vôtres. Non, la sédation profonde est censée être continue, ne l'est pas, car fréquemment le médecin réveille l'agonisant pour lui redemander s'il persiste dans son choix, ce qui est contraire à la loi Leonetti. Non, l'euthanasie ne relève pas de l'eugénisme. Ce sont les Allemands nazis qui en ont fait, en temps de guerre, leur instrument diabolique et ont dénaturé ce mot grec. Non, l'euthanasie n'a pas encouragé les malades à choisir cette porte de sortie. Non, la loi belge sur l'euthanasie n'a pas encouragé les spoliations d'héritage, ni la liquidation des personnes âgées. Non, elle n'a pas encouragé les malades à choisir cette porte de sortie, qui n'est jamais facilitée, puisque seuls 2% des malades en fin de vie la choisissent. Non, le procédé létal n'est pas violent. Non, le droit à l'euthanasie ne s'oppose pas aux soins palliatifs. Et enfin, non, je ne suis pas un cas particulier et exceptionnel. Légiférer sur l'euthanasie n'est pas répondre à l'individuel, mais bien à une volonté collective de pouvoir choisir en son âme et conscience ce que l'on veut faire des derniers instants de sa vie.
Éric Woerth, le député, ancien ministre, m'a appelé sur la base de mon audition que vous avez lue donc sur l'Assemblée nationale.
Philippe Bataille, sociologue.
Et on a passé une heure au téléphone, son initiative. Et au tout début, il me dit « mais je vous appelle parce que ça fait plusieurs fois que ce débat revient à l'Assemblée nationale et régulièrement j'ai voté contre l'évolution législative de valider l'euthanasie ou le suicide assisté ». Et puis, à dire vrai, ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent, et je vois que la situation n'avance pas, et que, par contre, les cas deviennent de plus en plus douloureux. Je voudrais parler avec vous. On parle une heure, et il me dit, demain, donc, nous allons revoter cette loi, je vais changer mon vote, je vais voter pour l'aide active à mourir, l'article 1 qui est passé, pour faire évoluer la loi de 2016. Et le même Éric Woerth me dit, je suis content d'avoir parlé avec vous, d'autant plus que ce soir, je mange à l'évêché. L'évêque organise un repas la veille du vote de la loi sur la fin de vie. J'ai laissé entendre qu'il allait entendre un autre son de cloche que ce que j'avais dit. Mais le lendemain, j'ai suivi les débats à l'Assemblée nationale et il a effectivement voté l'évolution législative. Donc la situation dite d'impasse dans laquelle on se trouve n'est pas une impasse. C'est un rapport de force politique qui bloque l'évolution législative et les nouvelles manières éventuellement de pouvoir entendre et accompagner de manière plus active des fins de vie qui se réclament dans des situations dont je pense moi, et je l'ai écrit, qu'elles restent exceptionnelles.
J'ai fait partie de ceux qui s'opposaient à une évolution du droit il y a 10 ans, 15 ans.
Régis Aubry, président de la section technique du Comité consultatif national d'éthique.
Et donc voilà, cette évolution personnelle, elle m'a été dictée par des malades, dont Paulette Guinchard-Künzler, qui était atteinte d'une maladie neurodégénérative, neuroévolutive, mais lentement évolutive. Donc Paulette Guinchard a fait face à sa propre transformation physique, sa transformation de ses capacités, ses capacités d'expression, d'élocution. C'était une femme politique qui ne pouvait plus parler à la fin de son existence. Et il y a eu un moment où, finalement, elle me disait, parce que je l'ai accompagnée pendant presque 10 ans, vous voyez tout le temps que cela peut prendre, où elle me disait, Régis, il y a un moment où les pertes que je n'arrête pas de subir, il y a un moment où ces pertes ne seront plus admissibles par moi. La condition pour laquelle, qui a fait qu'il m'a apparu que sa volonté devait être respectée, c'est que d'une part je l'avais longuement accompagné et d'autre part tout ceci avait été partagé avec sa propre famille, son mari, son fils, tout cela a mis du temps. Vous voyez, tout ce travail d'accompagnement, on est dans le soin, me semble-t-il, même si on accepte l'assistance au suicide, on ne serait pas dans le soin si on abandonnait les gens.
Paulette Guinchard est un exemple vraiment qui me paraît passionnant et très révélateur. C'est quelqu'un donc qui était secrétaire d'État aux personnes âgées, donc elle connaissait vraiment bien les questions de fin de vie.
Martine Lombard, professeure émérite de droit public.
Elle a signé une tribune avec Régis Aubry, professeur de médecine spécialisé soins palliatifs, contre ce qui se passait en Belgique en estimant que la loi Leonetti, qui était votée en 2005, était la bonne réponse à ces questions. Et ayant signé donc cette tribune dans Le Monde en 2005, elle a ensuite été confrontée à une maladie rare, mais qui paralyse progressivement le corps. Et donc elle en a énormément souffert et décidé finalement d'aller en Suisse pour mettre fin à sa vie. Mais elle a souhaité qu'on en parle après sa mort en Suisse, pour que publiquement le débat s'ouvre en France et que ce qu'elle avait obtenu en Suisse puisse être obtenu beaucoup plus simplement en France.
Vous nous recevez, Régis Aubry, dans le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, qui existe depuis 1983. Et le dernier avis relatif à la fin de vie, vous le dites en introduction de l'avis 139, avait eu lieu en 2013. Donc 10 ans se sont écoulés quasiment jusqu'à cet avis 139, donc qui autorise une ouverture, qui ouvre une voie vers la légalisation du suicide assisté. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 10 ans pour que les membres du Comité consultatif national d'éthique œuvrent à cet avis-là ?
Certains journalistes ont parlé de rupture, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de rupture, mais d'évolution. Le monde change, le monde des malades change et notre société change. Les malades, aujourd'hui, qui sont confrontés à une maladie incurable, ne sont pas tout à fait superposables aux situations que nous évoquions il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des personnes qui vont pouvoir vivre beaucoup plus longtemps que dans le passé, avec une maladie qui est pourtant incurable. Ça modifie son rapport à soi, son rapport aux autres, son rapport à la vie, son rapport à la question du sens, de ce que vivre veut dire. La question de l'autonomie dont on parle beaucoup, elle est mise en avant pour pouvoir décider de ce qui semble bon pour soi, décider de sa fin de vie, décider du moment de sa fin de vie, c'est quelque chose qui semble prégnant dans notre société, qui a un désir de maîtrise, me semble-t-il.
Pour la première fois, le Comité consultatif national d'éthique, à travers un avis dont les deux rapporteurs étaient Régis Aubry, pourtant ancien président de l'ASFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et Alain Claeys, pourtant ancien co-rapporteur de la fameuse loi Claeys-Leonetti, se prononce pour une aide active à mourir, car ils reconnaissent que la loi française ne répond pas à toutes les situations. Ils reconnaissent pour la première fois qu'il y a des souffrances réfractaires, c'est-à-dire des souffrances auxquelles ni les soins curatifs, ni même les soins palliatifs ne peuvent remédier. En revanche, l'avis 139 me semble toujours marqué par certains préjugés qui sont véhiculés toujours aujourd'hui par l'ASFAP, qui est que dans le cas où, par malheur, il faudrait aller vers une aide active à mourir, eh bien, il faut choisir un modèle américain, le modèle de l'Oregon. C'est un modèle qui a deux caractéristiques. La première, c'est que le rôle des médecins est limité vraiment strictement. Ils peuvent prescrire un produit létal, mais ils ne peuvent pas aider le malade à l'absorber. Donc, le malade, une fois qu'il a son produit létal chez lui, se retrouve seul face à ce produit létal. Et il doit l'absorber tout seul. Il peut être très difficile d'ingurgiter ce produit. Il y a des incidents tels que finalement le produit est régurgité et donc le malade est encore plus mal qu'il n'était avant. Donc c'est un acte assez courageux que l'on demande au malade, même terriblement fort. D'autant plus qu'il faut qu'il soit à moins de 6 mois de la mort naturelle. C'est la deuxième condition, deuxième caractéristique. Donc, par définition, ce sont des gens déjà très malades. qui ont une possibilité d'agir diminuée. Et il faut qu'ils boivent ce produit. Donc un certain nombre renoncent. Et ça, c'est toujours mis en avant par l'ASFAP qui dit il y a un tiers de ceux qui ont reçu ce produit qui ont renoncé à le prendre. Et ce qui est très caractéristique, c'est que l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique, lorsqu'il envisage les solutions possibles, il n'en envisage qu'un modèle, le modèle américain. Et les modèles européens sont totalement passés sous silence, mais vraiment comme s'ils n'existaient pas. Tout se passe comme si la France n'était pas en Europe. Donc, moi, j'essaie de me battre pour remettre, non pas l'église au centre du village, elle y est déjà, mais la France en Europe. Il faudrait pour cela notamment renoncer à la condition du pronostic vital engagé à moyen terme, condition dont on ne sait même pas trop ce qu'elle veut dire d'ailleurs, dont les médecins reconnaissent qu'il est difficile de la mettre en pratique.
Quelle serait une bonne loi à vos yeux ?
D'abord, c'est une loi qui reconnaît l'aide active à mourir comme un acte de soin.
Valérie Ménage, neurologue.
Il ne s'agit pas de répondre à des demandes de gens bien portants, comme on l'entend trop souvent, qui demanderaient à ce qu'on les aide à mourir. Ça n'est pas ça dont il s'agit dans la perspective de cette loi. Ce sont des gens malades, qui ont une maladie grave, qui est responsable de souffrances terribles, qui sont dans une situation de grande dépendance et qui demandent à la médecine de les aider. Si l'évolution de la loi devait se faire vers un suicide assisté où le prérequis serait que ce soit à la personne de faire, de fait, ça exclut toutes les personnes qui, aujourd'hui atteintes de maladies qui sont à l'origine de paralysie, qu'elles touchent leurs bras ou qu'elles soient responsables de cette difficulté à déglutir, ne pourront pas effectuer ce geste eux-mêmes, ne pourront pas absorber eux-mêmes ce produit létal. D'autre part, si cet accès est assujetti à un critère temporel très strict, comme je vous le précisais, il y a aussi, dans un certain nombre de ces maladies neurodégénératives, des troubles cognitifs qui font que, dans la mesure où c'est vous qui faites la demande et que vous devez être en capacité de l'exprimer le moment venu, ils seront également exclus. Puisque, de fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y aura pas d'accès à l'aide active à mourir sur directive anticipée. Donc vous devez, le jour où l'acte serait effectué, vous devez pouvoir être en capacité de le demander. Donc c'est la double peine. Donc non, le suicide assisté n'est pas la modalité qui serait la plus respectueuse de l'autodétermination des patients. Ce qui serait le plus respectueux, c'est de répondre au choix que ferait la personne.
Valérie Ménage fait partie des 90 professionnels de santé qui ont signé en septembre dernier une tribune dans le journal Le Monde. Tribune qui met en garde contre un projet de loi qui n'autoriserait que le suicide assisté et ferait de ce fait sortir l'aide active à mourir du cadre médical. Position que défendent aussi Monique Ladsou et Véronique Seyé de la délégation Nord de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité. Ces deux militantes mettent en contact des personnes atteintes de maladies incurables avec des médecins afin que leur dossier puisse parvenir jusqu'en Belgique pour une future euthanasie. Et pour elles, le modèle le plus juste, c'est le modèle belge. Inscrit dans la loi et dans un parcours de soins qui ne s'embarrasse pas de la condition de pronostic vital et prend juste en compte le caractère incurable de la maladie et évidemment la notion de discernement de la personne demandeuse.
Quand on regarde ce qui se passe dans le monde et en Europe, les pays qui optent pour le suicide assisté n'offrent pas un droit aussi complet que ceux qui optent pour l'euthanasie, comme les pays du Benelux. Bon, la Belgique, c'est celui qu'on connaît le mieux, mais les Pays-Bas, Luxembourg, qui a influencé l'Espagne très récemment, mais surtout le Canada et la province du Québec, qui ont opté pour une aide médicale inscrite dans le service de santé. Et c'est la seule façon d'avoir un droit égalitaire. Le modèle suisse ne fait pas école. Il s'est construit historiquement pas du tout à partir du code de la santé. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de loi. Il y a simplement un code pénal qui dit que le suicide n'est pas illégal, donc on doit pouvoir aider les gens à se suicider. et une tolérance donc pour que les médecins puissent délivrer une ordonnance. Et pour le dire avec les mots de la Convention citoyenne, ce qui doit prévaloir, c'est la volonté du patient et son libre arbitre. Ça, c'est vraiment important. Et le deuxième principe qu'ils ont posé, c'est que l'aide médicale à mourir soit une partie d'un parcours de soins et donc à la charge du corps médical. Quoi que pense le gouvernement et quoi que pense le président de la République, il est dans une situation où on a un problème de santé publique, exactement comme en 75 ou dans les années 70 avec l'IVG. Il y a un problème de santé publique, les Français vont se débrouiller pour obtenir les produits, les médicaments et se donner la mort eux-mêmes dans des conditions difficiles, douloureuses et quelquefois en échouant, donc en prenant des risques. Mais ils le feront tant que la loi ne répondra pas à leurs demandes.
Et en effet, en 2019, plus d'une centaine de flacons de pentobarbital sont saisis dans toute la France chez plusieurs militants d'Ultime Liberté, association au profil plus radical qui milite pour une fin de vie choisie, que ce soit sur des critères de santé ou juste d'âge. La plupart de leurs adhérents ont plus de 70 ans, une tranche d'âge qui représente 20% des suicides en France, selon le rapport 2020 de l'Observatoire national du suicide. Le jour de ces perquisitions, la présidente d'Ultime Liberté, Claude Hury, et son secrétaire général, Armand Stroh, se sont retrouvés interrogés par la police pendant presque 24 heures.
Nous, ce qu'on a toujours fait, c'est donner de l'information sur des possibilités. Donc toute personne qui désire mourir, pour une raison quelconque qui la regarde, elle peut être informée sur les différentes possibilités. Donc il y a toutes les possibilités légales à l'étranger, et puis on les informe sur l'existence d'autres moyens, mais qui sont illégaux. Et donc, comme notre philosophie générale, c'est la liberté de la personne,
et la responsabilité.
Nous lui disons, on vous informe de l'existence de moyens illégaux par rapport à la fin de vie. Et donc, c'est à vous de prendre en charge ou pas cette dimension d'illégalité. Donc nous, ça a été justement un des problèmes par rapport à notre mise en cause juridique. Quelle est la part de l'association en tant que telle, des accompagnants, et quelle est la part de décision propre des personnes qui choisissent de commander un produit à l'étranger? Il y avait eu une enquête qui a commencé en 2018 à partir d'informations qui avaient été données au niveau international à partir des États-Unis, et donc une enquête internationale sur le trafic de Nimbutal.
C'était la Food and Drug Administration qui avait fourni des renseignements voilà. À la police
et
française.
Donc, dans le cadre de la collaboration internationale au niveau des douanes, il y a eu la version enquête en France. Donc, il y a eu l'organisation en octobre 2019 des perquisitions simultanément au siège ici, et puis simultanément auprès de toutes les personnes dont ils savaient qu'elles avaient fait une commande et qu'elles étaient susceptibles de l'avoir reçue, une commande à l'étranger.
Ils étaient 9 dans la maison pendant 9 heures. Et ils sont allés aussi dans notre autre maison à la campagne avec toi.
Et ils avaient une hypothèse au départ qui était que par rapport à ce trafic, qu'on participe à ce trafic.
Oui.
Donc ils ont quand même fait une perquisition ici assez fouillée quand même pour voir si on n'avait pas du produit présent dans la maison ou ailleurs, au nom de l'association. Parce que les personnes elles-mêmes qui étaient perquisitionnées avaient souvent du produit chez elles. Donc certaines l'ont donné, d'autres ont dit non, je refuse de le donner, etc. Bon. Donc ils se sont aperçus que les personnes avaient bien le produit, mais que l'association en tant que telle n'en avait pas.
On a dormi en cellule. D'ailleurs, je me revois là avec le capitaine qui gérait un petit peu tout. Je lui dis, écoutez, c'est parfait. En France, on avance par procès. Rappelez-vous Bobigny, l'avortement. Il y a eu le procès de Bobigny qui a fait que ça a suscité la loi. Je dis, nous, on attend que ça, qu'il y ait un procès. C'était vraiment, enfin, il va y avoir publicité sur les problèmes de la fin de vie. Donc, nous, on a fait de la garde à vue et puis après, on est passé à la mise en examen au niveau du juge d'instruction.
Mesdames, messieurs, je tiens à vous informer par la présente de mon décès dans la dignité, dans le cadre d'une procédure de suicide assistée en Suisse. Vous m'avez écrit, monsieur le président, dans votre courrier d'août 2020, que la peine de mort était abolie et que vous n'étiez pas au-dessus des lois. Je vous répondrai, en tant qu'ardent défenseur de l'abolition de la peine de mort, que cela est dans la normalité des choses qu'il en soit ainsi. D'un autre côté, n'étant pas assujetti à la prononciation d'une peine capitale par une cour d'assises, je ne vois pas ce que vient faire l'allusion à la peine de mort dans mon dossier. Je tiens à féliciter mesdames et messieurs les députés qui ont eu le courage et la conscience de voter pour l'article 1 du projet de loi de M. Falorni. En revanche, je tiens à fustiger l'archaïsme des membres du Sénat du fait de leur vote négatif sur un projet de loi similaire au projet de loi cité ci-dessus. Êtes-vous prêts à soutenir un projet de loi relatif à la fin de vie dans la dignité, dans lequel serait défini tant le suicide assisté que l'euthanasie, le tout bien sûr encadré par des mesures de sécurité et de protection nécessaires. Pour finir, je vous adresse, mesdames, messieurs, mes salutations d'outre-tombe. Alain Coq, cimetière de Chevigny-Saint-Sauveur, 21800, première allée à gauche, première sépulture à gauche.
Alors, Alain Coq, c'était un grand militant pour les personnes en situation de handicap, pour leur dignité.
Jean-Luc Romero, président d'honneur de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Il était lui-même sur un fauteuil roulant. Il avait une cinquantaine d'années. Malheureusement, il a été atteint d'une maladie orpheline qui a fait qu'il a été cloué dans son lit. Il ne pouvait plus faire aucun geste de la vie quotidienne. Et puis, il avait des douleurs physiques qu'on ne pouvait pas soulager. Donc on voit qu'il n'avait en France aucune solution. Et donc cet homme, pendant un an, a tenu. Il a alerté les médias, les politiques à longueur de temps. Il a essayé lui-même deux fois de se donner la mort, en arrêtant de s'alimenter et de s'hydrater. Mais c'était totalement insupportable. Et au bout d'un moment, il n'y a pas eu d'autre solution. Et il m'a fait venir en me disant, écoute Jean-Luc, si tu peux trouver les moyens, j'ai plus d'autre solution maintenant parce que moi, je ne peux plus continuer à hurler de douleur comme ça. Et il faut que je parte maintenant. Pour Alain, c'était trop compliqué pour la Belgique. La seule solution, c'était la Suisse. Enfin, c'est tout un système qu'il faut monter qui est quand même très, très compliqué. Et puis, un coût qui est entre 12 000 et 13 000 euros. Et ça lui faisait un bien fou en même temps de préparer tout ça, parce qu'il savait que cette fois-ci, ça allait être la libération totale. Et donc, quand on est arrivé en Suisse, il était tout souriant. Je vous dis, la femme qui l'accueille et la directrice, qui lui dit, on a le temps, etc. Il dit, ah non, mais moi, il voulait que ça aille très vite. Et donc, il a été installé très vite dans le lit, on lui a mis la perfusion, et donc, on vous met plein de collants sur la perfusion, c'est à vous d'arracher les collants et de tourner le robinet de la perfusion pour le déclencher. On lui a mis ça, et Madeleine, la personne qui a fait ça, tout ça sont partis, en nous laissant tous les deux avec lui, en disant, voilà, parlez-vous, etc. Et nous, il nous a dit tout de suite, il a dit, mais moi, je vous aime beaucoup, etc. Toi, tu tiendras la promesse que tu m'as faite en restant militant, etc. Donc, il m'a dit deux, trois blagues. Et puis, il a arraché et immédiatement, et il me parlait, je lui ai dit, je vais quand même t'embrasser. Il me dit, fais attention, j'ai peut-être la Covid, etc. Et c'est quasiment les derniers mots qui m'a dit, parce qu'il s'endorme extrêmement paisiblement. Et puis voilà. Et ça s'est fait très rapidement pour lui. Et il est parti. Et c'est vrai que c'est quand même violent. Hein, parce que moi, après, j'avais un train un peu plus tard. Et j'ai eu besoin de marcher dans Berne. Et c'est évidemment... il y a une espèce de vide après. Mais en même temps, un grand, 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 grand soulagement de savoir qu'il a été entendu. Et puis de le voir partir comme ça. Parce que tous ceux qui s'opposent à tout ça, moi je leur dis, allez voir quelqu'un qui n'en peut plus de ses souffrances et qui part, allez voir à quel point il est soulagé. En même temps, comment ça se fait qu'on doit organiser tout ça alors qu'il aurait pu mourir chez lui à Dijon tranquillement ou avoir d'autres proches à ses côtés. Voilà, avec une loi qui donne un droit, qui n'oblige à rien, chacun est respecté. vous savez que l'État va être à vos côtés, que vous aurez une possibilité, que vous aurez une porte de sortie. Quand vous apprenez que vous avez une maladie de Charcot, etc., et comment ça va évoluer, eh bien, il y a des gens qui se suicident très prématurément. Alors que peut-être, vous auriez vécu encore un an, deux ans, ou peut-être plus. Donnons à ces personnes cette assurance qu'ils vont être aidés, bah, ça les évitera de se suicider violemment.
Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie a publié en 2022 un panorama des législations sur l'aide active à mourir dans le monde. Et l'on y apprend que deux arguments reviennent dans tous les pays, 10 au total, qui ont franchi le pas de la légalisation. D'abord, c'est le respect de la volonté de la personne. Mais ce seul argument, selon ce rapport, n'est pas suffisant pour garantir un accès à la loi de manière stable et pérenne. Et cela s'illustre notamment en Espagne, où le droit à l'euthanasie, proclamé en 2021, peine, selon ce rapport, à être effectif. Pour que ce droit puisse s'inscrire durablement dans les pratiques et être accessible à toutes les personnes éligibles qui le demanderaient, il faut aussi pouvoir considérer que l'offre de soins pour les personnes en fin de vie est incomplète sans la possibilité de l'euthanasie et ou du suicide assisté. Ce qui nécessite une forte implication du corps médical dans ce cheminement vers une évolution de la loi. Mais nous n'y sommes pas encore. Les oppositions et les crispations sont encore très fortes. Le drapeau rouge le plus agité étant celui d'une loi qui laisserait libre cours à des dérives. Une libéralisation de la mort, comme a pu l'écrire Emmanuel Hirsch, directeur de l'éthique au sein du groupe Orpea, ou une surdisponibilité de l'euthanasie par rapport à d'autres soins, comme l'écrit Sarah Piazza, psychologue en soins palliatifs à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis.
La mobilisation pour légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté est, entre autres, tourner autour de cette question de la souffrance, et il me semble que parfois il y a un peu des représentations qui laisseraient entendre que la fin de vie, la toute fin de vie, devrait être un moment complètement exempt de souffrance. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je suis là aussi pour interroger le fait que dans la vie normale de tout le monde, on est traversé par des moments de souffrance. Je trouve ça un peu étonnant d'imaginer qu'au moment de la fin de vie, il y aurait là un moment spécial qui pourrait ne pas être traversé par des moments de souffrance. Bon, l'expérience humaine, que ce soit au début de la vie ou à la fin de la vie ou au milieu de la vie, elle est traversée par des moments de joie, de peine, d'angoisse, de soulagement, de souffrance, de grand bonheur. Voilà. Et il me semble que c'est en lien avec une représentation aussi très forte que la fin de vie, ce serait un moment tout à fait à part. Moi, mon expérience en soins palliatifs m'a montré, j'étais un peu étonnée d'ailleurs, mais m'a montré que la fin de vie, en général, ça ressemble beaucoup à la vie d'avant.
Ce sont quand même des souffrances quand même très particulières que vivent les patients en fin de vie.
Se confronter à l'idée qu'on va mourir, c'est quelque chose de très difficile. Je ne pense pas que la solution à cette difficulté-là soit la suppression du sujet.
Quand vous voyez, par exemple, le projet de loi, la notion d'accompagnement, et c'est aussi un élément fort, accompagner une personne, c'était plutôt l'accompagner jusqu'au terme de son existence. On n'avait pas compris jusqu'à présent que c'était aussi l'aider à mourir.
Emmanuel Hirsch.
Vous voyez, on est dans des équivoques qui sont significatifs d'un embarras, finalement, à prendre véritablement position. Ce qui me semblait le plus important avant de parler du droit de mourir, c'est la reconnaissance du droit à vivre des personnes. Il est plus simple aujourd'hui, publiquement, de dire qu'on est favorable à une libéralisation de la mort médicalisée que de dire qu'on se pose encore des questions.
Qu'est-ce qu'une demande d'aide à mourir médicalisée enlève au droit de vivre ?
Pour moi, ce qui est difficile, c'est de légiférer sur l'euthanasie et de légiférer sur le suicide, de dépénaliser quelque chose qui a une symbolique extrêmement forte, un impact extrêmement fort. Dans la question que vous évoquez, vous dites la personne qui souffre a le droit de ne pas souffrir. Je ne conteste pas. Et tout est mis en œuvre dans les bonnes pratiques médicales ou dans les pratiques du soin et de l'accompagnement, précisément pour la personne ne souffre pas. Ensuite, qu'elle demande à un moment donné qu'on n'aille pas plus loin. À tous les moments, dans les décisions médicales, on ne va pas plus loin dans une chimiothérapie, on ne va pas plus loin dans un traitement. C'est pas pour autant qu'on donne la mort à la personne. On arrête ce qui peut apparaître comme démesuré, disproportionné pour une personne. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que le temps à vivre, pour autant, n'a pas encore une signification? Donc une fois qu'on rentre dans ce temps-là, pour moi, la priorité, c'est pas comment va se dérouler votre mort médicalisée. C'est comment vous allez vivre votre existence jusqu'à son terme. Et le moment venu, la mort vient. Si vous dites, je considère au moment où je suis dans cette situation que j'ai le droit de mourir, c'est une question qui mérite d'être posée. Et j'ai du mal à voir comment le législateur, voilà, peut répondre directement à cette question.
Notre expérience au quotidien à l'hôpital de La Fontaine, que ce soit dans les services de médecine dans lesquels on travaille avec l'équipe mobile de soins palliatifs, ou que ce soit dans le service dans lequel moi je travaille aussi particulièrement, qui est la réanimation, on a aujourd'hui un terme qui revient en permanence à l'hôpital, qui parle des bed blockers, donc les patients bloqueurs de lit. D'ailleurs, on dit même plus patients, ça devient des bloqueurs de lit. C'est un terme qui circule de plus en plus, y compris chez les soignants, y compris chez les médecins. On est, à cause de la situation de l'hôpital public notamment, obnubilé par comment faire sortir les patients. C'est ça qui organise aujourd'hui l'hôpital. Or, il y a des patients qui ne peuvent pas sortir. Les fameux bed blockers. Ces patients, ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de logement, parce que depuis qu'ils ont été hospitalisés, ils se sont dégradés, ils sont devenus dépendants, il n'y a pas forcément de place en EHPAD. On peut vraiment se poser la question de quels sont les messages que la société va renvoyer, et y compris que l'hôpital va renvoyer à ces patients qui n'auront pas de place à l'extérieur, qui seront avec des polypathologies, qui peuvent être un des critères après pour avoir accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. Et effectivement, oui, on se demande, quand on n'a pas de place dans le monde, on peut tout à fait avoir envie de mourir.
Mais c'est peut-être oublier qu'une loi impose des garde-fous, justement.
La question des garde-fous, dont on parle en permanence, très honnêtement, j'y crois absolument pas. Parce que ce que l'expérience nous montre, et ça c'est l'expérience dans tous les pays qu'ont légalisé le suicide assisté ou l'euthanasie, les critères pour avoir accès s'élargissent. Voilà. Ce qui est en fait pas très étonnant. Parce que si on en revient à cette idée que décider de sa mort au nom de la souffrance est une liberté et un droit individuel, bah au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui revendiquent ce droit. Et donc au nom de l'égalité, on voit pas pourquoi on accepterait que certains y aient accès et pas d'autres.
En Suisse, les choses varient peu et les taux augmentent peu. En Belgique, ils augmentent et des critères nouveaux apparaissent.
François Blau, médecin réanimateur et président du comité d'éthique à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif.
Aux Pays-Bas également, au Canada également. La crainte des dérives, effectivement, elle est là, elle mérite d'être prise en compte. Pour autant, encore une fois, là, ce qu'on sait, c'est que des personnes souffrantes qui n'accèdent pas à ce qu'elles voudraient dans leurs conditions de fin de vie, elles sont là, factuellement. Elles sont là, et ou bien elles font comme Gilles Deleuze, elles se jettent par la fenêtre, ou c'est les amants du Lutetia qui se suicident ensemble, ou c'est une histoire que je connais qui est en train de se passer là, ces jours-ci, un couple qui part en Suisse, et puis toutes les situations d'euthanasie clandestine en France. Alors, face à ça, on peut dire, oui, mais c'est tellement marginal, tellement faible en proportion, de l'ordre de 1 à 2 ou 3% des personnes en situation de fin de vie, que on ne légifère pas pour une minorité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne me sens pas à l'aise, je ne me suis tellement pas senti à l'aise face aux personnes qui m'ont consulté en me disant, voilà, mon projet, il est avéré et je vais le mener à bien, quoi qu'il arrive. Eh bien, ça me fait très, très mal au cœur de ne pouvoir rien faire, si ce n'est dans l'illégalité, pour eux. Donc, les impensés ou les cas dans l'angle mort, ils existent pour de vrai. Les cas de dérive future, bah, c'est à nous d'être malins pour que, globalement, on ait suffisamment d'intelligence collective et que, tant en termes de loi qu'en termes de pratique et de déontologie soignante, nous restions dans un cadre qui n'autorise pas de dérive ultérieure. Et il va falloir faire très 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 attention dans la loi future au fait que tout le monde soit respecté. je pense qu'il y aura besoin à un moment que tout le monde soit finalement comme ça l'est devenu avec l'IVG, qui est le moins de clause de conscience possible qui s'active. Mais pour ça, faut respecter les soignants dans leurs limites actuelles, les entendre, ne pas les mépriser. C'est-à-dire qu'on a besoin de tous les acteurs et chacun mérite le respect de l'autre.
Pascal Gauzon, 83 ans et demi, né à Paris, trois garçons, trois enfants, un mariage qui dure depuis 60 ans et cinq petits-enfants. On m'a diagnostiqué avec beaucoup de mal en 2001 à un cancer de la vessie. Et mon épouse, elle a eu un cancer du sein il y a 40 ans. Et puis, il y a eu une récidive du cancer il y a quelques années. Et ça se complique aujourd'hui d'une tumeur au cerveau. Et elle est actuellement traitée sous morphine. Et ça nous incite, de façon définitive, à quitter ce monde. Et notre décision a eu lieu en mars l'année dernière, quand j'ai appris qu'il fallait que je recommence une dialyse. La dialyse, c'est 3 jours par semaine, 3 fois 4 heures. Et c'est pas une souffrance, c'est un emmerdement. Et donc retourner, après toute la série d'épreuves médicales que j'ai traversées, j'aurais dit on arrête. À partir de mars, j'ai commencé les échanges avec Dignitas en Suisse. Quand on a annoncé notre décision, évidemment, la famille a été tristement affectée, quoi. Et un de mes fils a mis beaucoup de temps à comprendre que la guérison n'était pas possible. Ce bouquin, où je raconte tout ce qui s'est passé médicalement pendant 21 ans, et c'est pour ça qu'à la fin, je dis, vous comprenez pourquoi on fout le camp. Je l'ai dit de la façon suivante. Là, j'en ai vraiment assez. J'en ai tout à fait marre de l'hôpital, des opérations, des pansements, des dialyses, des examens incessants. Après m'avoir lu, vous comprenez pourquoi. Claude attend depuis longtemps ma décision de partir avec elle. Nous pensons à nos enfants, et cela nous attriste. Mais notre ras-le-bol l'emporte. Il faut que cela s'arrête.
Ça, c'est donc une somme d'écrits que vous avez, qui sont de vous, et que vous avez rassemblés dans un livre que vous avez appelé Œuvre, et c'est, je vois l'intertitre bon, Saga médicale.
J'ai toujours aimé écrire, et dans ce recueil, il y a mes recettes, mes poèmes en particulier, sur la famille, sur les gens concernés. Alors, j'ai prononcé et écrit une phrase en disant « Je m'emplis de vous, de Flacourt, de la musique. »
Flacourt, c'est la maison.
Oui, c'est notre propriété de famille. Mon frère, ma sœur et moi avons chacun une maison. À 1 heure de Paris, j'y étais hier pour ma dernière visite. Et ça a été quelque chose de formidable, cette maison. Une ferme achetée par mes parents, il y a 70 ans. Moi, j'avais 14 ans. Et c'est vrai que hier et avant-hier, je regardais la vallée de l'Eure par la fenêtre de ma chambre. Il y avait un rayon de soleil qui éclairait à 1 kilomètre les arbres du golfe. Et c'était d'une beauté formidable. Tous les soirs, en général, je me branche à partir de 11h sur de la musique classique. Et le dimanche soir, il y a eu du Handel. Formidable. Ça a été... À ce moment-là, il y a eu un éblouissement assez formidable. On m'a traité de hédoniste, c'est pas fou. J'ai toujours beaucoup apprécié la vie, la gastronomie. Donc, pour certaines personnes, notre départ est incompréhensible. J'ai fait une fête avec ma femme le 28 mars de l'année précédente dans un très bel établissement, le musée Jacques-Marandré, et on avait invité une soixantaine de personnes. À ces personnes, j'ai envoyé ces jours-ci un mot disant « Nous vous avions dit au revoir de façon extrêmement discrète il y a un an, mais maintenant on revient vers vous pour vous dire adieu. Nous sommes mardi 7 ou 8 et nous partons dimanche. Moi je pars avec mes trois fils. Ma femme, comme elle ne peut pas bouger, ne partira que deux jours après, accompagnée par ma sœur qui est oubliée. Ce sera un moment très difficile pour ma sœur et pour ma femme aussi d'ailleurs. Parce qu'il y aura un voyage de 6 ou 7 heures. Et donc, si vous expliquez mon hédonisme, je leur ai proposé, à mes fils, de s'arrêter à Beaune, dans le meilleur relais château, avec 3 étoiles au Michelin. Ensuite, on va à Lausanne, où on retrouvera ma femme. Et après, à Zurich. Et c'est dans un petit village près de Zurich que le départ se fera. La seule question, est-ce que je vais les laisser assister? Parce que c'est dur pour eux. Alors que nous, on est content. C'est vraiment notre ambi-réflexion. Tristesse d'un côté et joie de partir.
Merci à Pascal Gruson, Claude Hury, Armand Stroh, François Blot, Valérie Ménage, Jean-Luc Romero, Sarah Piazza, Emmanuel Hirsch, Monique Ladsou, Véronique Seyé, Martine Lombard, Régis Aubry, Philippe Bataille et Olivier Falorni. Merci aussi à Anne Maubray, Giovanna Marsico et à Katia Hébard. Lecture, Anne de Peufeuillou et David Mandino. Prise de son, Lucien Lefebvre et Pierre Henry. Mixage, Antoine Viossa. Documentation d'actualité, Carole Roy. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Des vivants jusqu'à la mort. Troisième épisode, Une loi pour mourir. Un documentaire d'Émilie Chaudet réalisé par Cécile Lafont. Retrouvez les pages web sur franceculture.fr et le podcast LSD sur l'appli Radio France.